Soyez les bienvenus. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chute, on écoute la télé, le talk show radio en podcast maintenant sur onécoutelatélé.com. Chute, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse. Des biscuits fabriqués à Blanzac en Haute-Vienne avec un savoir-faire artisanal et un goût authentique. Découvrez toutes nos recettes en grande surface. Les Caprices de Thérèse, dégustez l'excellence. Chute, on écoute la télé avec votre agence de voyage Les Ailes du Partage. Amandine, votre interlocutrice privilégiée, vous proposera voyage à la carte et sur mesure, adapté à votre budget dans le monde entier. Passez du rêve à la réalité en réservant votre prochain voyage au 06 72 32 47 67 et sur voyage-solidaire.com.
Succomber au plaisir d'un dessert Marais Morin en écoutant Chute, on écoute la télé. Marais Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez la fameuse mousse au chocolat à l'ancienne et vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente près de chez vous sur marais-morin.fr.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Ravi de vous retrouver sur notre site onécoutelatélé.com pour Chute, on écoute la télé, le podcast. Tous les lundis à 20h, eh bien, nous vous donnons rendez-vous justement pour ce podcast avec tous nos invités où pendant une heure, nous allons vous accompagner pour passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors vous savez pas ? Eh bien on va faire tout de suite le sommaire. Eh bien oui, c'est parti.
Chute, on écoute la télé, le talk show radio.
Et au sommaire de ce nouveau numéro de Chute, on écoute la télé. Dans une poignée de secondes, on va parler évidemment de la Star Academy qui fait son retour samedi avec Margot Abbott, qui est une des anciennes Star Académiciennes de la saison dernière, qui va nous parler de ses projets, qui va nous présenter également son nouveau single et puis surtout aussi qui va prodiguer ses précieux conseils pour les nouveaux élèves. On va également déverser avec vous nos coups de cœur télé de cette semaine consacrés bien sûr à Monsieur Parisot qui sera diffusé ce soir sur TF1. Son interprète Patrick Parou et Clémence Lassala seront nos invités exceptionnels. Iñaki Lartigue également viendra nous parler de Samuel dans Plus belle la vie. On va avoir le grand plaisir de recevoir Maïel Elajaoui et Nelly Lawson pour Demain nous appartient. Et puis on va avoir également un coup de cœur ciné consacré à Drone qui vient de sortir au cinéma. Simon Buisson ou encore la comédienne Marion Barbeau et Stéphane Crépon seront nos invités. Et puis on terminera également l'émission pour parler du Festival Creativity qui débarque à 7 à partir de mercredi. Justine Thibaudat, une de ses programmatrices artistiques, sera donc avec nous pour nous parler de la programmation. Et nous serons d'ailleurs dès mercredi à 7 pour vous faire vivre ce festival sur nos réseaux sociaux. Vous l'avez compris, on va encore pas s'ennuyer aujourd'hui dans Chute, on écoute la télé. Alors c'est parti.
Après une saison phénoménale,
le grand gagnant est...
Un gagnant aux multiples records. Et une tournée triomphale.
Est-ce que ça va ce soir ?
La Star Academy ouvre une nouvelle page de son histoire. Qui marchera sur les traces de Pierre Garnier ?
Allez, notre invité aujourd'hui dans Chute, on écoute la télé à l'occasion du retour de la Star Academy qu'on est très heureux de retrouver. On va prendre un peu de nouvelles aussi de nos anciens Star Académiciens, ceux de l'année dernière, une promo qu'on n'oubliera jamais, qui restera, je pense, à jamais gravée dans le cœur des téléspectateurs. Et c'est pas Margot Abbaté qui va nous dire le contraire. Bonjour Margot.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Je suis très heureux de t'avoir, Margot. On a vécu une saison de folie l'année dernière avec vous tous. Et il est vrai que toi, t'as fait un parcours franchement magnifique dans cette saison avec une véritable amitié qui s'est créée vraiment entre vous tous, parce que même si l'aventure s'est arrêtée le 10 décembre pour toi, t'es monté sur scène avec eux sur plusieurs scènes de la tournée, t'as pu vraiment continuer, voilà, à les côtoyer, à les voir, à passer du temps tous ensemble. C'est ça le secret de cette réussite, je pense, de cette saison.
Bah, en fait, c'est vraiment comme tu dis, c'est le casting en fait qui a été très bon et très bien choisi, je pense. Et en même temps, il y a eu des surprises, parce que même si je pense que les casteurs avaient une idée à peu près des amitiés qui allaient naître ou pas, personne ne pouvait savoir à quel point le groupe allait être aussi soudés. Et la preuve, c'est que comme tu dis, un an après, on est encore tous très amis, on s'appelle, on se voit et on est toujours très heureux de prendre des nouvelles en fait.
Ce qui est génial aussi, c'est que quand on démarre dans ce métier, je pense que le plus beau, c'est d'être entouré par des gens qui nous comprennent et vous vivez tous la même chose, donc rien de tel que ça pour tous vous comprendre ce que vous vivez en ce moment.
Oui, c'est ça, parce que même si on a des personnalités bien différentes et des parcours de vie qui sont vraiment pas les mêmes, à ce moment-là, dans l'émission, on arrive avec... avec les mêmes rêves en tête et on part tous de zéro. Et à ce moment-là, on est ensemble en fait et on peut que se soutenir. Et comme tu dis, ce qu'on a vécu, on l'a vécu ensemble, c'est unique et toute notre vie en fait, on se rappellera de ça.
Ah oui, cette Starac 11, je crois, va effectivement, en tout cas, nous avoir tous marqués. Margot, on va faire un petit retour en arrière quand même, puisque toi, tu as démarré le chant à quel âge déjà ?
J'ai pas vraiment de date précise en fait. Je crois que ça a toujours été comme ça. Enfin, tu sais, quand t'aimes quelque chose, ça devient naturellement, mais je sais juste que je me souviens depuis toute petite, je chantais dans ma chambre, je dansais, j'adorais ça, mais j'étais très timide, c'était en cachette, moi j'assumais pas trop ça, quoi, j'aimais pas qu'on m'écoute.
Un peu comme Elena jusqu'à un mois de rentrée dans la Starac en fait.
Et bah alors moi par contre c'est vrai que je chantais quand même un petit peu plus, enfin ça m'arrivait en soirée avec mes amis de chanter comme ça, mais j'étais quand même très très timide, j'aurais jamais osé prendre ça public, tu vois.
Mais après, ce qui t'a décoincé quand même, c'est que t'as fait des animations dans des campings et où tu t'es produit en quelque sorte, parce qu'il y a souvent dans les campings l'été le spectacle des animateurs, et là t'as fait tes premières scènes finalement.
Mais moi, je pense vraiment que ce parcours-là d'animatrice m'a énormément aidée à ce que je suis devenue aujourd'hui et à ce qui s'est passé à la Star Academy. Parce que comme tu dis, c'est un métier qui te donne énormément de confiance en toi, d'assurance. Et finalement, comme tu apprends à te donner en spectacle, à faire des sketchs, t'apprends que dans ce métier-là, le ridicule ne tue pas. Ça te donne des armes, en fait, qui sont finalement hyper utiles pour après ce métier de chanteur, en fait.
Tu t'attendais à un raz-de-marée pareil ? Est-ce que vous étiez préparés, tous, et toi en particulier ?
Mais tu peux jamais te préparer à quelque chose comme ça. Parce que c'est tellement gros que t'as beau te préparer...
Il y a eu 10 saisons avant quand même, donc vous avez pu voir quand même ce qui s'était passé. Mais là, personne ne pouvait, en tout cas, imaginer un succès pareil de cette saison.
Mais c'est ça en fait, c'est que tu sais, mais sans savoir, tu sais pas. Et puis en fait, chaque expérience est unique, chaque saison est unique. Et le mieux en fait, je crois, à ce moment-là, quand tu te lances dans l'aventure, c'est de pas penser à ça, mais c'est de vivre l'instant présent pleinement, d'être toi-même et de laisser la magie opérer en fait.
Les plus beaux moments que t'as vécu, les moments les plus forts peut-être émotionnellement pour toi?
Bah alors ça c'est pas dans le château, mais déjà c'est le premier coup de fil hein, où on te dit que t'es pris, là il se passe quelque chose quand même, ça te chamboule. Le moment où on arrive à l'hôtel, on se découvre enfin et ça y est, en fait là on est dans le bain, tu vois, on tourne le premier générique, les premières photos, on réalise petit à petit que là ce qui va se passer c'est dingue. Et puis le soir arrive, le premier prime, le rideau s'ouvre, l'arrivée au château, la première fois qu'on entend l'hymne et qu'on se dit qu'on va chanter ça. Je crois que ces premiers moments là ils sont... Waouh, ils sont impactants, tu vois. Même que là, quand je t'en parle, tu vois, je suis en mode, ah, ça me fait un petit truc quand même.
Bah oui, et puis quand on voit les fans qui vous ont suivi partout et qui non seulement ont suivi les sets qui étaient en tournée, mais ont suivi bah, Victorien, toi, tous ceux qui sortaient des singles, vous ont accompagné. En avril, t'as sorti le Tour du Monde qu'on va écouter là dans une poignée de secondes. Et il est vrai de voir le public justement qui n'a pas lâché aussi, même ceux qui sont sortis un peu plus tôt. Ça fait quand même quelque chose, quoi. C'est quasiment unique, c'est jamais arrivé.
Ouais, c'est beau parce qu'en fait, on a tous notre communauté qui nous suit, des gens qui nous aiment et qui nous soutiennent. Et il y a même des gens que tu vois, que tu retrouves à chaque concert, c'est toujours les mêmes, ils sont toujours à fond. Et ça fait chaud au cœur de savoir que t'as ce jour-là avec toi. Et puis moi, ce que j'aime aussi dans notre promo, c'est que on a tous des univers musicaux bien à nous, bien différents. On a notre communauté, mais qui parfois sont, il y en a qui nous suivent, qui me suivent moi, mais qui suivent aussi Victorien, qui suivent aussi Axel. Enfin, tu vois, c'est.
Je suis sûr aussi que les professeurs, il y a vraiment un corps professoral là pour moi, qui amène quelque chose d'assez unique, humain aussi, qui laisse en tout cas transpirer quelque chose d'hyper humain avec vous tous.
Complètement, c'est un tout, tu vois, t'as Malika qui a son énergie hyper solaire, hyper positive, super dynamique et une très très bonne pédagogie, t'as Cécile qui est très émotive, qui est très sensible, qui est très juste aussi dans ses mots, coach Joe qui nous met la patte, enfin tous, ils ont tous leur truc et c'est pareil, ils ont aussi leur propre personnalité et ils nous font grandir et ça participe au succès de l'émission.
Bienveillance, hein, je crois que ça aurait été le mot en tout cas qui est revenu sur les réseaux, qui est revenu sans arrêt en tout cas sur cette promo là. On va parler maintenant de ton futur dans un instant, mais juste avant tu vas nous emmener faire le tour du monde.
Bah let's go.
Il était prêt il y avait longtemps ce titre ou pas?
Non, en fait ce titre là on l'a sorti peu de temps, enfin on l'a écrit peu de temps après ma sortie. On voulait arriver assez vite pour dire aux gens bah coucou, on est là et Margot Abad ça va être ça. Et c'était une évidence d'écrire cette chanson puisque c'est totalement dans mon ADN en fait, quand on connaît mon parcours justement.
On l'écoute ?
Ouais.
Et je vous invite aussi à aller voir le clip, il est très très beau, en tout cas très réussi. On écoute le Tour du Monde, Margot est avec nous aujourd'hui.
Je vais quitter ma terre, au moins une seconde changer d'heure, faire le tour du monde, éteins la radio, mets les voiles, change de paysage, le ciel est beau, il y a des milliers d'étoiles, du naufrage, change tes lunettes, regarde par la fenêtre, respire un coup, le vent frais sur tes joues, écoute les mélodies, aime la vie, aime la tire, touche, vois comme le monde est à nous. Je veux quitter ma terre, au moins une seconde et changer d'air, faire le tour du monde, retrouver la mer, loin de toutes ces ondes, changer d'air et faire le tour du monde. Kilomètres s'affiche au compteur, on compte pas nos heures. Ta-da-ta-ta-ta. Le temps s'arrête et je vois dans le rétro s'envoler nos cœurs. Ta-da-ta-ta-ta. Change tes lunettes, regarde par la fenêtre, respire un coup, le vent frais sur tes joues, écoute les mélodies, aime la fille, aime la tire à tous. Tu vois comme on y prend goût. Je veux quitter ma terre, au moins une seconde et changer d'air, faire le tour du monde, retrouver la mer, loin de toutes ces ondes, changer d'air et faire le tour du monde. Alors tu vois, c'est pas grand chose, après l'orage, le ciel est rose. Assez parlé de mots, dans ce dernier voyage, allume la radio. Je veux quitter ma terre, au moins une seconde changer d'air, et faire le tour du monde, retrouver la mer, loin de toutes ces ondes, changer d'air, et faire le tour du monde.
Et le tour du monde, Margot Abad qui est avec nous aujourd'hui, ancienne star, académicienne on peut le dire aujourd'hui, artiste, chanteuse, et qu'on a beaucoup de plaisir à recevoir aujourd'hui. On va parler de l'avenir, parce qu'on a parlé du passé pendant cette première partie, Margot, mais j'imagine qu'il y a plein de choses qui se préparent. Il y a un deuxième single qui arrive aussi, bien évidemment. Margot, ça fourmille.
Bah, on est là, hein. Faut pas lâcher. Je pense qu'on a eu cette chance énorme d'avoir une belle mise en lumière, mais rien qui est acquis dans la vie. Et je pense que si on veut garder aussi tous ces gens qui nous ont suivis et qui nous soutiennent, faut battre le fer tant qu'il est chaud. En tout cas, c'est ma vision des choses.
Le tour du monde qu'on a entendu, ça a fait très son pop, afro. Il y a plein de sonorités, plein d'ambiances différentes. Quelles ont été un peu tes sources d'inspiration sur ce titre?
Ça me fait plaisir ce que tu dis, parce que c'est déjà, t'as très bien ciblé la chose. En fait, moi, c'est vrai que j'aime beaucoup de styles de musique, donc ça a été pas facile pour moi de me dire qu'est-ce que je fais exactement. Mais je crois qu'il y avait quand même une évidence déjà de par le côté guitare, le côté babos, tu sais, on m'appelle la babos, donc c'est ce côté un peu baba cool, de fille un peu chill et détente, qui adore vivre l'été avec sa guitare. Donc on voulait retrouver ces notes-là, tu vois, ces notes un peu solaires, pop quand même, qui parle aux gens. Et en même temps, moi j'adore l'afro, j'adore ces rythmes un peu qui dansent. Donc je voulais que ce soit dansant, je voulais que ce soit solaire, qu'il soit finalement à mon image un peu, hein, quelque part, sans vouloir me vanter, parce que j'aime pas dire ça, tu vois, mais j'ai envie de pouvoir faire sourire les gens. C'est important pour moi.
Ouais, c'est ça qui est assez drôle. Tu te décris comme une fille plutôt chill, cool, etc. C'est vrai qu'on t'a jamais entendu t'engueuler avec un autre élève au château.
Ouais, c'est pas dans ma philosophie de vie. Enfin, tu sais, je trouve que c'est un peu. Je trouve que l'énergie, c'est hyper important. C'est quelque chose de vital, et que c'est important de savoir la conserver, notre propre énergie, je veux dire.
T'es pas quelqu'un qui t'énerve facilement, quoi.
Ben en fait, je trouve que c'est beaucoup d'énergie gaspillée pour rien. Alors après, je dis pas, on est des humains, hein. Je suis comme tout le monde, hein. Je ressens de la colère, de la tristesse. J'ai aucun mal à exprimer mes émotions, mais je veux préférer, tu vois, prendre les choses avec du recul et me dire que les choses peuvent être réglées avec de la bienveillance, avec de la communication, plutôt qu'à gueuler pour rien, quoi, tu vois.
Ou que t'as raison, Margot. Évidemment, quand on fait de la musique, c'est aussi pour la partager sur scène. T'en as fait quelques-unes cet été. T'as été de passage d'ailleurs à Royan, sur le front de mer, rencontrer tes fans qui viennent te voir toi et non plus la promo de la Starac. Ça aussi, c'est quelque chose d'hyper émouvant.
Mais émouvant, c'est totalement le mot. En fait, c'est marrant parce qu'à chaque scène, je suis toujours surprise quant au nombre de gens et quant au soutien que je reçois, parce que c'est pas que j'oublie, mais tu sais, je monte sur scène, je suis un peu stressée, etc. Et puis à chaque fois, c'est toujours pareil. Je me prends une vague d'amour et je me rappelle et je me dis, ah ouais, c'est vrai qu'il y a eu ça dans ma vie et c'est beau et ça me touche toujours. Et tu vois, là, j'ai fait un concert, je me souviens, au Sable d'Olonne aussi, qui m'a beaucoup marqué. Je sortais d'un mois de vacances, ça faisait un mois que j'avais pas fait de concert, j'étais un peu stressée de la reprise et j'ai reçu tellement d'amour que j'ai beaucoup pleuré, tu vois, à ce concert-là, parce que c'est beau, c'est puissant, en fait.
Alors, la musique, j'imagine que là, il y a un single qui est sorti, il y a un deuxième, EP, album, qu'est-ce que tu prépares ?
Alors, l'idée, c'est que, comme tu dis, on a sorti une première chanson, du coup. On arrive à la rentrée, on est en laissé passer un peu l'été avec un nouveau morceau. L'idée, c'est de sortir peut-être trois chansons, en montrant des choses un peu différentes, avant de sortir un EP pour commencer. Je pense que c'est important de ne pas brûler les étapes et d'y aller petit à petit pour pas arriver avec un gros album de suite. Ça fait peut-être beaucoup de chansons, beaucoup de choses à écouter d'un coup. En tout cas, dans cette génération, on a tendance à swiper vite et à passer vite à autre chose. C'est des stratégies, tout ça. Mais en tout cas, on arrive et on va faire les choses comme il faut.
T'as des artistes avec qui t'as envie peut-être de partager des titres? Alors ça peut être des élèves de ta promo, mais ça peut être des artistes comme Vianney, des gens de qui tu es fan par exemple.
Ouais, bien sûr. Là, je pense à... Alors des gens de ma promo, j'adorerais avec Victorien, mais ça, je pense que c'est une évidence pour les gens. Je pense que c'est pas forcément quelque chose à faire tout de suite, mais à l'avenir, un duo avec Vic, ça me ferait vraiment plaisir. Et puis, après plein d'autres, hein, mais c'est Vic, tout le monde sait qu'on a eu un petit binôme qui marchait bien. Et après, sinon, Jérémy Frérot, je pense, Stilto. J'aime beaucoup. Vianney, Ben Mazué, par exemple, tu vois, là, c'est des artistes avec qui j'aimerais beaucoup, ouais.
Je devrais bien faire un duo avec Tom Fragé aussi. Un copain qu'on adore dans l'émission, et c'est vrai, de par ton style musical, justement, et ta philosophie de vie, je te verrais bien aussi avec lui.
C'est vrai. Et en plus, Tom Fragé, j'ai beaucoup chanté ses chansons, donc, enfin, surtout la fameuse Lady Melody.
Lady Margot.
Lady Margot, it's me. Bah, pas de problème, en tout cas, Tom, si tu m'entends, je suis là.
Ben voilà, le message est passé en tout cas. Alors, on va découvrir un deuxième extrait, justement un deuxième titre que tu nous offres là maintenant, lequel tu as envie de nous faire écouter.
Eh bien, cette chanson s'appelle Mon regard, du coup.
Composé, écrit par toi?
Alors par moi, et pour la petite histoire, ce jour-là, il y avait Victorien aussi, justement, qui a participé à l'écriture de cette chanson.
Alors quel titre tu auras envie de nous faire partager maintenant, en tout cas ce deuxième titre?
Eh bien, on va partir sur C'est si bon.
C'est si bon, ah, ça me rappelle une chanson, ça.
Alors ouais, il y a plusieurs titres similaires, ouais. Mais on est loin de ça.
Écrit et composé par toi aussi.
Celle-là, pour le coup, oui. Alors en tant qu'auteur, je suis toute seule dessus. Et à la composition, bah, je suis avec Jérémy.
Voilà, que de belles choses en tout cas qui arrivent. Est-ce que tu as des envies autres aussi artistiques? On a vu Vic, pour le coup, avec Candice, participer à un épisode de Demain nous appartient. Est-ce que toi, tu aurais des envies peut-être de jouer de la comédie? Si on te proposait un rôle, un guest peut-être dans une série, est-ce que tu as des envies autres que la musique?
Mais moi, j'ai toujours été assez ouverte à l'art en général, parce qu'en fait, je suis passionnée de tous ces métiers qui touchent à la créativité, au monde artistique. Et quand j'étais petite, je rêvais d'être actrice. Et là, en ce moment, tu vois, ce qui me ferait vraiment plaisir, ce serait de faire du doublage. Je sais pas pourquoi, mais tu sais, j'étais animatrice avant. Le côté enfantin, déjà, il fait partie de moi. J'ai toujours ce petit côté enfantin que j'ai envie de cultiver. Et j'adorais faire du doublage dans des dessins animés ou un Disney, tu vois, une fois comme ça. C'est un truc qui me ferait vraiment, vraiment kiffer. Donc, écoute, on verra de quoi l'avenir est fait.
Dernière question, quel conseil tu donnerais aux nouveaux stars académiciens s'ils t'entendent là?
Eh ben, le meilleur conseil que je puisse leur donner, ce serait de vivre l'aventure à fond, sans trop se poser de questions, de juste vivre l'instant présent, qu'ils soient fidèles à eux-mêmes et qu'ils savourent chaque instant, parce que ça passe vite.
Ça passe vite, effectivement. On va écouter Mon regard, du coup, maintenant, Margot?
Bah, carrément, let's go.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On te souhaite plein de belles choses. On reste connectés, évidemment. On sera là, hein, pour l'EP. On sera là pour l'album. En tout cas, on reste connectés ensemble. Et on te dit à bientôt. Non, ensuite, on écoute la télé.
Et bah, ça me fait super plaisir. Merci à tout le monde. Et gros bisous à tous ceux et toutes celles qui nous écoutent.
Vous, un sourire vous dérange. Un sentiment heureux vous abîme, vous offense. Que reste-t-il pour ceux qui saignent les âmes en pleine? Que reste-t-il pour eux et ceux qui rêvent d'une trêve, de lueur et de mieux? Mon regard n'est pas fait pour ce monde, n'est pas fait pour les autres, non, n'est pas fait pour ce monde. Mon regard n'est pas fait pour ce monde, n'est pas fait pour les autres, non, n'est pas fait pour ce monde. Nous, un sourire.
apparence. Quand on ne sent plus le feu, on l'allume et on change les pleurs des cœurs de ceux qui s'éteignent dans la reine. Qu'avons-nous fait de mieux que ceux qui s'aiment ensemble s'élèvent? Paraît que c'est contagieux. Mon regard n'est pas fait pour ce monde, n'est pas fait pour les autres, non, n'est pas fait pour ce monde. Mon regard n'est pas fait pour ce monde, n'est pas fait pour les autres, non, n'est pas fait pour ce monde. Balabala, papa, balapapa, n'est pas fait pour cela, papa, balapapa, n'est pas fait pour ceux qui s'aiment les âmes en peine. Que reste-t-il pour eux et ceux qui rêvent d'une trêve, de lueur et de mieux? Mon regard n'est pas fait pour ce monde, n'est pas fait pour les autres, non, n'est pas fait pour ce monde.
Allez, on revient dans un instant avec l'équipe de Drone qui va nous rejoindre. Nos coups de cœur télé, Patrick Parrou, Clémence Lassalas, Mayalé Lajaoui, Nelly Lawson ou encore Iñaki Lartigue, ainsi que Justine Thibaudat pour Creativity en fin d'émission. Et puis Emmanuel Rillet également va nous rejoindre pour parler de son film documentaire Le Mans 1955 qui sera diffusé demain soir sur Planète Plus. Alors à tout de suite.
Bouge pas, bouge pas. Chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. A tout de suite. Le rendez-vous des stars, c'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio.
Fuego.
¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Estarías bailando hasta conmigo, no como amigos, sino como otra cosa. Usted cerca me pone peligrosa, por un besito hago cualquier cosa. La novia suya me pone celosa, y aunque es hermosa, hey, no te va a tratar como yo, no te va a besar como yo, no está tan rica así como yo. Ella es tímida y yo no con estas ganas que tengo yo. Atrevo a comérmelo todo. Hoy estás jangueando con ella, pero después tal vez no. ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Seguramente estarías bailando hasta conmigo, no como amigos. Ey, ¿qué hubiera sido ahí si antes te hubiera conocido? Como yo, no te va a besar como yo, no está tan rica así como yo. Ella es tímida y yo no con estas ganas que tengo yo. Me atrevo a comérmelo todo. Hoy estás jangueando con ella, pero después tal vez no. ¿Qué hubiera sido?
Chute, on écoute la télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook Chute, on écoute la télé. Chute, on écoute la télé, le talk show radio, le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur ciné est consacré à Drone. On est très fiers de recevoir Simon Buisson qu'on avait rencontré pour Stalk. Et on va découvrir son premier film au cinéma. Ça s'appelle Drone. On va recevoir dans un instant d'ailleurs les comédiens qui sont avec nous, Marion Barbeau et Stéphane Crapon. Bonjour Simon, merci d'être là.
Bonjour et ravi aussi. Et on s'était vu pour 36-15 Bonique aussi.
Aussi, mais ça n'arrête pas, dis donc. Et c'est vrai, je suis très fier d'accompagner ton premier film pour le cinéma. Parce qu'en plus, c'est un thriller d'action. Il y a plein de choses dans ce film, franchement, qui sont vraiment chouettes. Et en même temps, très dans l'actualité et qui explore voilà, tout le monde du métaverse, des drones, de la surveillance, du voyeurisme aussi. Il y a plein de sujets, les violences faites aux femmes. Il y a plein de sujets évoqués dans ton film.
Complètement. Bah, c'est parti d'une idée un peu folle, hein. Il y a 6 ans, High Concept, un drone qui harcèlerait une jeune femme, quoi. Moi, la première fois que j'ai vu cette machine, je sais pas si t'as le même ressenti, mais je me suis dit c'est marrant parce qu'elle a un côté un peu fascinante. Tu sais, elle est en lévitation avec un œil qui te regarde. Donc là, elle incarne la technologie dans ce qu'elle a de puissant et pourquoi pas positif. Et en même temps, elle est flippante. En même temps, il y a ses hélices qui tournoient. Il peut aller très vite. Tu sais pas qui est derrière. Tu vois, dans le drone de guerre qu'on entend beaucoup en ce moment avec la guerre en Ukraine, on entend beaucoup la létalité aussi des drones. Et je me suis dit c'est fou comme cet objet, un seul outil. Il matérialise tout ce que la technologie peut faire de bon comme de mauvais, quoi. Et c'est un peu le pharmacon, tu sais, c'est le remède et en même temps c'est le poison, quoi. Donc me dire, en fait, quand j'ai vu cet objet, je me suis dit il faut faire un film, un thriller où c'est le personnage. Enfin, il y a un humain, il y a Marion, il y a une humaine, et il y a une machine, quoi. Et
explorant les deux facettes de la machine, du coup. Le bon comme le mauvais.
Et donc il y a le côté positif où il crée un lien entre eux, où au début la machine l'augmente. Hein. C'est un peu comme un téléphone portable qui au début vous donne plein de tips. En fait la machine avec le personnage de Marion Barbeau, il lui donne de l'argent, il l'aide dans ses études d'architecture, il lui montre l'objet de ses désirs, Mina. Il vient même la sauver quand elle se fait agresser par Stéphane Crépon. Donc la machine est vraiment au début presque bienveillante, quoi. Et elle noue une sorte de pacte faustien, et au moment où elle veut arrêter la relation, c'est trop tard, quoi. Et là, on rentre dans la partie du récit qui est la plus, j'allais dire, on plonge dans le genre, un peu à la Duel de Spielberg. Là, c'est, dans Duel, c'était un camion. Là, elle est poursuivie par ce drone. Et elle cherche, elle cherche plusieurs choses. Alors, sortir de l'emprise de la machine, mais exactement comme t'as dit sur les violences faites aux femmes, elle cherche à prouver l'existence de cette violence, à dire aux autres, cette machine existe, cette machine me regarde. Mais comme elle a rien pour le prouver, que cette machine est complètement transparente, elle se sent complètement seule. Et même nous, spectateurs, on finit par se dire, mais ça se trouve, c'est dans sa tête. Donc en fait, on passe par tout le mécanisme comme ça de ces petites violences invisibles qu'elle doit dénoncer. Et à un moment, l'objectif du personnage, c'est de couper la tête de ce drone. Et moi, ce que j'aime bien, c'est qu'en coupant la tête du drone, c'est couper la tête de la caméra, couper la tête du réalisateur, couper la tête des spectateurs,
stop.
Voilà, laissez-moi tranquille. Et en même temps, une fois qu'elle a arrêté, c'est de comprendre. C'est en fait qui est derrière, qui me regarde. Alors forcément, il y a Cédric Kahn, il y a Stéphane Crépon, il y a plein de personnages un peu étranges autour d'elle. Et donc nous, spectateurs, on est un peu en train aussi de faire nos calculs, un peu de suspicion, à dire c'est peut-être un tel, etc. Et on est avec le personnage à se demander voilà qui est derrière. Et j'espère que la réponse que je vais pas vous donner porte vraiment le thème du film qui est, tu l'as bien dit, hein, sur le regard, la question du regard masculin et qu'on appelle aux États-Unis le male gaze. Ça porte bien son nom, quoi. Et je trouve que c'est une problématique qui est très générationnelle au cinéma en ce moment.
Il y a quelque chose, il y a le voyeurisme qui pose question. Il y a un petit côté aussi très person of interest aussi, un petit peu de la série. Et puis tu l'as certainement voulu comme ça, mais le film a été tourné quasiment, je vais pas dire intégralement en drone, mais quasiment.
Alors le fantasme au début c'était un film full drone. En fait non, t'as deux points de vue, t'as le point de vue où t'es accroché avec le personnage et t'as le point de vue dans les airs. Et en fait ce que je voulais c'est que quand t'es dans le drone, en fait tu sens juste par la façon de cadrer et les mouvements l'humeur qu'a la machine. Donc juste tu dis ok là elle a l'air calme, ok là elle a l'air nerveuse, là elle a l'air curieuse, là elle est joueuse. Et qu'en fait ça te prenne un peu par la main et qu'en fait toi spectateur tu te retrouves un peu au bout d'un moment à te dire mais un peu complice de cette machine, quoi. Un peu complice de son regard voyeur, tu vois. Et en fait, pour moi, ce voyeurisme, il est partout aujourd'hui dans notre société. Quand je vais sur Instagram, quand je me mets en scène, je suis autant exhibitionniste que quand je vais regarder des choses voyeur, quoi. Et ce drone, je te dis, il devient la terminaison nerveuse de tout ça, quoi. Et c'est ça qu'Emily doit détruire, quoi.
Et oui, c'est ça qu'on va voir, justement. On va lui poser la question. pourquoi, justement, qu'est-ce qui t'a plu dans Marion Barbeau, qui porte le film littéralement, je vais y dire, hein, elle nous rejoint dans un instant, mais elle est incroyable, elle est sur tous les plans, elle développe une énergie assez folle, une angoisse aussi qu'elle nous transmet, elle est incroyable comme comédienne.
Tu l'as dit, mais c'est, en fait, c'est d'abord, moi, je trouve une grande comédienne qui vraiment fait marcher la relation avec le drone, ce qui est hyper difficile. C'est-à-dire qu'elle a un côté un peu hors sol, elle est un peu lunaire, Marion, elle est un peu dans son monde, donc on croit complètement à ce que elle soit comme ça, à imaginer une relation avec un, pardon, mais un morceau d'acier, quoi. Enfin, et en même temps, c'est une danseuse, alors classique, puis contemporaine, et très athlétique. Donc elle a un physique, et en fait, je n'aurais pas pu faire ce film avec quelqu'un d'autre, quoi. Parce que dans la course-poursuite avec le drone qui se met en place, on tournait avec des pilotes FPV, qui font tourner leur machine de 0 à 200 km/h en une seconde. Ils avaient besoin de la capacité technique de Marion, qui vraiment leur dit, là, vous allez vous mettre là, moi, je vais passer à cet endroit-là, n'hésitez pas à aller plus proche de moi. Enfin, et dans l'accélération du récit jusqu'à la scène du parking où elle se fait complètement coincer physiquement par le drone, il fallait, pour moi, c'est une chorégraphie, là, c'est de la danse contemporaine entre un drone, une caméra et une jeune femme, quoi.
Mais c'est son expérience de l'Opéra National de Paris, je vais demander hein, aussi dans un instant, mais a certainement dû lui servir parce qu'il y a des scènes très chorégraphiées que là pour le coup tu as filmé.
Complètement, elle a une patience, elle a une capacité. En fait, je pense qu'aussi liée à la danse, elle aime bien s'épuiser à danser. C'est là où elle trouve des états de grâce. Et en fait, sur le tournage, moi j'aime bien faire beaucoup de prises et souvent on trouvait des états de réglage, etc. où vraiment il fallait. Mais même le droneur, il disait, mais enfin. Il disait, mais c'est fou la capacité qu'elle a à pouvoir m'éviter. Et même Marion disait, c'est fou la capacité qu'a le drone. Elle disait, mais j'ai l'impression de ne pas être seule. Elle disait, j'ai une espèce d'aigle prédateur avec qui je danse, quoi. Enfin, donc, en fait, il n'y a pas eu du tout ce truc de se dire, en fait, c'est un personnage tout seul. Non, c'est un personnage et une incarnation comme ça un peu étrange avec qui elle joue, quoi.
On va parler avec Stéphane Crépon évidemment et Marion Barbeau des personnages d'Émilie et Olivier juste avant de se quitter. Simon, les projets, alors t'es beaucoup dans le monde de la surveillance quand même avec Stalk. Est-ce que là on a une trilogie? Est-ce qu'on peut imaginer une quatrième saison où l'histoire est plutôt bouclée pour l'instant? Est-ce qu'il y a des projets dans ce sens?
Stalk, on est en train de préparer la troisième saison. Donc voilà, qui sera la dernière saison.
La fin de la trilogie, on termine avec cette trilogie.
Exactement. Et moi j'ai un autre projet encore avec Oécourt, plutôt lié à l'intelligence artificielle, forcément. Et j'aime bien continuer à filmer la technologie, mais la plus invisible possible, quoi. Et là, l'IA, je trouve, c'est ce qu'il y a de plus impressionnant, quoi.
Ouais, t'as filmé la technologie aussi d'antan, hein. Avec 3615 Monique, hein, quand même aussi. Hein. T'as exploré toutes les. Un peu tout.
Mais promis, après j'arrête. Après, je fais une histoire d'amour dans un appartement parisien pour changer, quoi.
Ça a déjà été fait, ça, en plus. Bon, Simon, merci. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter?
Bah, de continuer à faire des films. Franchement, c'est un métier génial, quoi.
Voilà. Et dans deux jours, drone au cinéma.
Absolument. Ruez-vous, franchement. Et, ou alors, regardez la bande-annonce. Vous allez voir, elle met un peu l'eau à la bouche.
Exactement. Et puis, d'ailleurs, on va l'écouter maintenant, la bande-annonce. On va vous donner l'eau à la bouche le temps que Marion et Stéphane s'installent à mes côtés. Et on vous retrouve juste après. Merci, Simon, et à bientôt.
Merci beaucoup. À bientôt, avec plaisir.
Réinvestir symboliquement un espace, abolir les frontières, c'est ça le travail de l'architecte.
T'as jamais vu avant.
Tu viens d'arriver en plus.
Ouais, vous connaissez tous là.
Bon, on verra bien à la présentation si vous avez toujours votre place ici.
Je préfère te prévenir, il va te bouffer.
Et si on veut pas se faire bouffer? Je viens de recevoir le virement d'un client, mais directement sur mon téléphone. Comment c'est possible de faire ça?
C'est pas possible, les données sont sécurisées.
Ça va te paraître bizarre, mais
j'ai toujours l'impression qu'on me regarde.
Ouais, qui te regarde.
On continue notre spécial drone et les comédiens nous ont rejoints. On a le plaisir de recevoir Marion Barbeau, que vous avez peut-être vu dans Encore, de Cédric Lapiche. Bonjour Marion.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Puis on a également Stéphane Crépon qui est avec nous. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Bonjour Olivier. On va y suivre le parcours d'Émilie. On a planté un peu le décor déjà avec Simon. Déjà, j'ai envie de vous demander à tous les deux, qu'est-ce qui vous a donné l'envie de suivre Simon dans cette première aventure cinématographique?
Le sujet du film, pour moi, était très fascinant. Ce qu'on décide de montrer sur les réseaux sociaux, sur Internet, et jusqu'où ça nous échappe finalement, et où est-ce que toutes ces images vont. Et puis, ouais, le côté presque animal de cette machine qui est le drone, ça m'intéressait beaucoup.
Pour toi, Stéphane?
Oui, pareil, il y avait le scénario que je trouvais très habilement construit, avec cette espèce de thriller haletant qui nous porte du début à la fin. Et puis aussi l'univers de Simon, j'avais vu son travail au préalable, et donc son inventivité, sa constante recherche un peu de pour réinventer les nouvelles formes de cinéma, m'a beaucoup attiré.
Voilà. Alors, vous êtes tous les deux étudiants dans le film, hein, en quelque sorte, en architecture. Et donc, vous allez devoir déposer un projet pour Cédric Kahn, hein, qui est assez glaçant à la fois comme prof et qui a un côté attachant et mystérieux vis-à-vis de ses élèves. Et donc, Émilie, que tu joues, va s'apercevoir à un moment donné qu'elle est épiée. Et si cette machine, dans un premier temps, ce drone, dans un premier temps, lui a peut-être apporté des choses, on verra qu'à un moment donné, ça peut aussi se renverser et qu'il faut toujours se méfier des apparences. C'est un peu ça aussi le type du film, c'est très dans l'air du temps parce que les drones aujourd'hui, n'importe qui est exposé, on en voit partout. Mais là, c'est une machine un peu particulière où même les plus grands experts de drones n'ont jamais vu cette machine-là. Elle a vraiment un côté très mystérieux. Est-ce que tu disais aussi animal ?
Ouais, carrément.
C'est surtout que c'est ce qui est assez fascinant dans ce drone-là, c'est qu'on sort de la machine. C'est devenu un être à part entière. C'est ça qui est angoissant sur ce drone-là, c'est qu'on a l'impression presque que c'est un humain. Il a des réactions particulières, il interagit en direct, voilà.
Il y a des scènes hyper difficiles, hein, pour le coup, pour toi, Marion, parce que t'es quasiment sur tous les plans. T'es poursuivi par cette machine, même des fois, dans des endroits très exigus. Il y a dû y avoir des conditions de tournage, des fois, compliquées ou pas. Qu'est-ce que ça a donné?
Ouais, franchement, c'était... Il fallait vraiment avoir confiance en le droneur qui maniait le drone à merveille, évidemment et heureusement, parce que je pense que ça peut faire très très mal. Enfin, ça peut être vraiment très dangereux et parfois il passait très près de moi à une vitesse quand même assez élevée, quoi. Et effectivement, dans des endroits plus ou moins exigus.
Oui, parce que on l'a spécifié avec Simon il y a quelques instants, mais une bonne partie du film a été tournée en drone, hein, donc évidemment pour les comédiens des fois ça peut vous déstabiliser par moment, non?
Ça peut être hyper déstabilisant, surtout c'est assez effrayant en fait comme bête. Enfin, il y avait différents drones qui étaient utilisés, mais moi celui avec lequel j'ai interagi, c'est quand même un énorme bazar qui pèse une dizaine de kilos voire plus, qui fait un bruit assourdissant. Quand ça arrive autour de vous, vous n'entendez plus rien. Si des gens vous parlent, vous pouvez pas les entendre. Vous prenez une dose de vent dans la gueule. Vous comprenez pas. Et en fait, c'est un côté très, vertigineux. On est mis dans une bulle et on est juste face à face avec la machine qui, du coup, devient très, très, très effrayante.
Alors, il y a tout plein de sujets évoqués. Il y a la violence faite aux femmes, mais il y a aussi des fois la détresse des étudiants ou des étudiantes. C'est le cas d'Émilie qui, pour arrondir un peu ses fins de mois, surtout pour arriver à payer son appartement et ses études, fait quelques vidéos sur Internet. Et c'est peut-être aussi le point de départ, c'est ce qu'on découvrira dans le film, mais est-ce que c'est le point de départ ou pas de ce côté épiage, un peu de ce côté voyeurisme et de ce drone? C'est ce qu'on verra, en tout cas au fur et à mesure du film.
Oui, bah en fait c'est intéressant parce que elle-même avant ce drone se mettait en scène finalement pour gagner de l'argent. C'est toujours très encadré et je pense que c'est pour ça que en un sens elle a très vite pas si peur de ce drone au début, parce que elle a comme l'habitude de se faire regarder, de se faire filmer par des inconnus. Là, ce qui est très très intrigant, c'est que comme on ne sait pas qui est derrière cette machine, on ne sait pas qui regarde ces images, quoi.
Il va y avoir toute une relation qui va se nouer avec une jeune fille aussi qui est DJ et qui va se nouer au fur et à mesure de l'histoire. Et évidemment, on verra où ça va les mener toutes les deux. Quelle est la scène qui vous a peut-être le plus effrayé ou qui vous a peut-être le plus ému ou qui vous a le plus bouleversé?
Non, il y en a plusieurs. Bah, il y a quand même la scène qu'on a faite ensemble avec Stéphane. Qui était très intense émotionnellement, qui était difficile à tourner, donc il fallait quand même préparer en amont, voire chorégraphier et bien encadrer. Voilà, qu'on a passé quand même pratiquement toute une nuit à la tournée et il fallait beaucoup de bienveillance et de tendresse entre nous et je crois qu'on a réussi.
Oui, je suis d'accord, moi c'est celle qui me reste le plus, mais on serait compliqué d'en parler parce que ça dévoilerait vraiment beaucoup de choses aux spectateurs. Pour en dire un peu sans... Il y a une scène qui est
d'une... Un switch avec le personnage d'Olivier à un moment donné, qu'on découvrira, et c'est à travers cette scène.
Il y a un switch, et notamment où il bascule dans une forme de grande violence. Et ça, oui, c'est une scène qui m'a hanté avant de la tourner, les jours et les semaines avant, et qui, sur le moment, a été très difficile à faire.
Beaucoup de scènes de nuit aussi. Est-ce que ça, c'est des fois compliqué? Est-ce qu'on n'est pas un peu déstabilisé là-dessus aussi?
Moi j'adore.
Tu préfères tourner de nuit, toi?
Non, les deux me vont, j'adore tourner, hein, de toute façon, donc de jour, de nuit, je suis content.
Ouais, moi aussi les deux me plaisent et les deux amènent une énergie différente. Effectivement, il y a une énergie nocturne qui est quand même assez forte. Je trouve qu'il y a des angoisses qui sont exacerbées la nuit et qui allaient bien finalement avec ce tournage, quoi, qui pouvait être assez anxiogène et angoissant.
Alors, il faut dire aussi, Marion, que tu es à l'Opéra National de Paris, tu es danseuse aussi. Et ça, est-ce que ça peut aider aussi un peu, justement, pour chorégraphier certaines scènes ?
Oui, bien sûr. Je pense qu'en étant danseuse, déjà, ça amène une agilité dans le corps, là, qui était, je crois, nécessaire pour, bah, comme on disait précédemment, pour faire face à la machine et pour pas se blesser. et puis ensuite, je crois qu'il fallait être assez athlétique. Enfin, moi, je sais que parfois, ça me demandait beaucoup d'efforts physiques.
Ah, t'as des scènes sportives, oui.
Ouais, effectivement, il valait mieux être un minimum en forme, quoi.
Pour toi, Stéphane, quels sont tes projets ?
Là, j'ai un autre film qui va sortir au début de l'année 2025 qui s'appelle Jouer avec le feu, qui est le troisième long métrage des Sœurs Coulin, Delphine et Muriel Coulin, qui est un film avec Vincent Lindon et Benjamin Voisin, et voilà, qui parle de la montée du nationalisme en France.
Très bien. Eh bien, on te retrouve en tout cas dans Drone. Toi aussi, Stéphane, ça sera donc mercredi au cinéma. C'est le film coup de cœur cette semaine, à ne pas rater, de Simon Buisson. Merci à tous les deux. Merci Stéphane. Merci Marion.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Au revoir.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Notre coup de cœur télé est consacré à Monsieur Parisot. C'est l'événement. On va découvrir enfin ce que Christian Parisot, le campeur préféré des Français, fait l'hiver quand il n'est pas au Camping Paradis. Et il est bien entouré dans cette unitaire qui pourrait devenir une série. En tout cas, on l'espère. C'est la volonté de la chaîne. C'est le succès au rendez-vous. On va tout faire pour vous accompagner avec Clémence Lassalas qui est avec nous. Bonjour Clémence.
Bonjour.
Alors évidemment, le public t'a découvert dans le rôle de Charlie Molina dans Demain nous appartient et c'est une nouvelle corde à ton arc que tu ajoutes avec Parisot. Et je crois que la rencontre avec Patrick Parrou t'a beaucoup plu.
Ouais, alors Patrick, c'est un mec qui est incroyable déjà. C'est quelqu'un qui t'accueille et il a le cœur sur la main. Et j'ai juste rencontré, honnêtement, un ami. C'est quelqu'un qui est formidable.
Ouais. C'est un comédien exceptionnel, hein, ouais. Faut dire.
C'est un peu comme, j'ai pas presque comme un maître, mais ensemble on a travaillé et il a tellement de bons conseils à donner. Et enfin, c'est formidable de travailler avec lui, quoi.
Et quand on voit son rôle, ce qui est assez drôle, c'est que c'est quelqu'un qui est hyper timide dans la vie.
C'est ça qui est très drôle d'ailleurs, c'est quelqu'un qui est assez réservé, assez contenu d'ailleurs, tout l'inverse de son personnage.
Ben oui, c'est ça qui est bien. Alors tu y joues Alexandra, puisqu'il va y avoir une histoire un peu d'enquête. On sait bien que Parisot aime bien fourrer son nez un petit peu partout, et il va y avoir une espèce d'enquête qui va mener un peu à tes côtés en quelque sorte.
C'est ça. Alors dans l'idée, c'est donc moi je suis une gendarme de Colmar, lieutenant, et il va y avoir un crime dans un château et tout le film ressemble un peu à un Cluedo.
Un Cluedo, ouais.
C'est inspiré un peu du film à couteau tiré. Donc il y a un truc très sympa dans l'enquête qui a tué entre la femme, la sœur, la fille, la gouvernante. C'est très marrant.
Ce rôle de gendarme, ça t'a plu ?
Alors pour moi, c'était un peu, j'avoue, un challenge parce que c'était un peu à l'opposé de tout ce que j'ai fait précédemment et ça m'a plu. Et d'un côté, comme la gendarme que je joue, en tout cas, c'est quelqu'un qui est très éduqué, très droite. Moi qui ai plutôt tendance à faire un peu n'importe quoi et des conneries, j'avoue, je me sentais un peu frustrée au départ. Donc c'était un vrai travail et finalement donc, très intéressant.
Il y a eu des faux rires sur le plateau ?
Ouais. Ouais, il y a eu pas mal de fou rire parce que Patrick. Parce que Patrick et que quand il est à fond dans son personnage, enfin c'est lunaire, on dirait un extraterrestre quoi.
Il a quitté ses claquettes chaussettes, t'as du coup l'hiver quand même.
Elles sont pas loin, hein.
Elles sont pas loin, ouais.
S'il y a pas les claquettes chaussettes, c'est remplacé par un magnifique collant de cycliste. Magnifique. On a hâte. Enfin, j'espère que vous allez apprécier autant que moi de voir ça.
Franchement, ce personnage a marqué l'histoire de Camping Paradis, mais à tel point qu'aujourd'hui, c'est devenu le campeur récurrent. Et que découvrir son histoire, c'est quelque chose qui lui tenait très à cœur, en tout cas, de découvrir ce que faisait ce campeur atypique l'hiver. Et c'est vraiment une très très bonne nouvelle. J'espère que ça sera décliné en série. En tout cas, faut être là pour découvrir cet épisode pilote qu'on va découvrir ce soir. Clémence, est-ce que t'as une anecdote à nous raconter, justement ?
C'est pas nécessairement une anecdote très très drôle, mais c'est qu'en fait, donc on tournait dans la région, enfin en Alsace. Et que en fait, il y avait quand même sur une scène, les premières scènes qui arrivent, c'est-à-dire quand on arrive à commencer pour tourner, et là on se prend une tempête de neige dans la tête. Mais comment dire que personne n'est prêt, et que du coup nous sur le, bah on a dû improviser avec ça. Donc en fait, on était là. Toute la scène a l'air un petit peu ridicule parce qu'en fait, s'il avait vraiment neigé comme ça, ça ne se serait pas passé comme ça. Mais bon, voilà. Et donc on a dû improviser et c'était incroyable. On s'est retrouvé enseveli mais en moins de 30 secondes quoi.
Ah oui, ouais. Donc ça perturbe un peu les raccords, tout ça.
Ouais, carrément, ouais.
S'il y a une suite, est-ce que toi, en tout cas, t'es partante ? Est-ce que t'as envie de continuer à incarner cette gendarme si par hasard il y avait une suite ?
carrément, carrément. Le rôle de cette gendarmette, et puis surtout si c'était pour être avec Patrick, carrément.
Alors, on va parler un peu de Demain nous appartient aussi, parce que c'est quand même quelque chose qui t'a aujourd'hui fait connaître au grand public, qui t'a amené une popularité complètement dingue. On le voit dans les festivals, quand tu te balades dans la rue. Charlie est vraiment ancrée en toi aujourd'hui.
Ouais, elle me manque. Elle me manque beaucoup.
Tu pourrais la retrouver, peut-être bientôt.
En tous les cas, moi, je suis au Canada. Je ne suis
donc
pas
tout loin. Retour est possible.
Ah bah oui, en fait, bon, ça y est, bon, je prends un jet privé, j'arrive.
Et ben, je pense qu'en plus, vu tout ce qui se passe autour de notre pauvre Nathan, il va avoir bien besoin de sa meilleure amie.
Oui, c'est ça. Peut-être qu'il faudrait s'attendre à me revoir sur les écrans.
Bon, en tout cas, ça, c'est encore de beaux projets. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'attendent pour la suite, Clémence?
Moi, en perso, non. C'est surtout que moi, je voudrais rebosser en production. Donc, moi, je suis en train de monter mes projets.
Ah, c'est génial. Ça, t'aimerais être réalisatrice aussi ou pas, ou juste productrice?
La réalisation, je sais pas si je serais en mesure de. C'est trop de responsabilités. Par contre, la production, c'est vraiment quelque chose qui me branche. Et je pense que les deux peuvent se faire en même temps. Donc, continuer d'être comédienne, mais aussi monter mes propres projets. Ça m'intéresserait beaucoup.
T'aimerais monter quoi comme genre de projet? Ça serait quoi tes rêves?
Partir sur du long métrage, et après moi j'écris pas mal. Donc en vrai, si je pouvais produire les films que j'ai écrits et jouer dedans, voilà, ce serait un petit peu l'objectif.
La boucle serait bouclée.
La boucle serait bouclée, exactement.
Et puis à la fois, tu peux t'offrir les rôles de tes rêves que personne t'offrira forcément. Et au moins, voilà, tu te les offres toi-même. Il y a beaucoup qui font ça aujourd'hui.
Ouais. Mais étonnamment, je ne sais pas pourquoi, je resterai toujours un petit peu dans les rôles de connasse. Je crois que c'est un truc que j'aime beaucoup faire. Ouais, voilà.
Bon. En tout cas, effectivement, Charlie nous manque, mais attention, pourrait bien faire son retour très prochainement. Dans Demain nous appartient, surveillez bien tout ça. Et puis, on va te retrouver dans Monsieur Parisot, premier épisode pilote. Soyez au rendez-vous. On va tous croiser les doigts, évidemment, pour que ça devienne une série. On en rêve, en tout cas tous, de continuer à voir Parisot autrement qu'au Camping Paradis. Et puis, en attendant, on va continuer aussi à le découvrir au Camping Paradis, évidemment.
Eh oui, eh bien, merci beaucoup.
À bientôt, Clémence.
À bientôt.
On va se quitter avec la bande-annonce, évidemment. Monsieur Parisot, ce soir, sur TF1, 21h10.
Christian Parisot, j'écoute.
Qu'est-ce qui s'est passé?
C'est que c'était décédé suite à une chute.
C'est de l'autre dodo.
C'est pas un accident. La veuve, son beau-frère, la jolie assistante, tous les habitants sont suspects.
Sympathisez. Vous écoutez, vous posez des questions.
Attention, véhicule de collection. Menace. Qu'est-ce que c'est que ça? Une négociation.
Vous savez que je risque ma carrière? Alors vous faites exactement ce que je vous dis. Avec tact. Et discrétion.
Et vous faites quoi là?
Et vous?
Et oui, Monsieur Parisot, c'est donc l'arrivée ce soir sur TF1 à partir de 21h10. Et comment terminer cette spéciale avec le héros? On peut pas terminer sans lui. Bah oui, Patrick Parrou est avec nous en ligne. Bonjour Patrick.
Salut Alain, bonjour.
Écoute, je suis très heureux de t'avoir. Bon, je peux te dire que Clémence a bien vendu le truc déjà, hein, ça c'est nickel.
Ah bon?
Elle a été extraordinaire. Et ouais. Patrick, il faut dire que c'est la consécration là pour Monsieur Parisot quand même.
Pour Monsieur Parisot, c'est une consécration. Tu sais, connaissant Parisot, lui, il aurait souhaité avoir un épisode sur lui dès le 4e ou 5e épisode de Camping.
Ah ben, hein, même depuis fait, le premier, hein, dès le premier, il
lui,
aurait fallu.
Lui, oui. Moi, j'ai été beaucoup plus patient. J'ai même pas été patient, c'est-à-dire qu'on est venu me le proposer. Donc voilà. Et bien sûr, j'étais très heureux. Et puis de répondre oui, bien entendu.
Alors, Monsieur Parisot, on va découvrir sa vie, donc on le disait, à Colmar. On va découvrir ce qu'il fait l'hiver quand il n'est pas au Camping Paradis, en quelque sorte. Et on va s'apercevoir que non seulement il met son nez un peu partout au camping, mais pas que, du coup.
Bah oui, c'est un observateur. Et puis là, il va se révéler enquêteur. Il se trouve que sur les étagères de la bibliothèque de Christian Parisot, on voit qu'il a beaucoup de romans policiers, ex-Braillard, Conan Doyle et puis Agatha Christie. Et il se pique d'avoir lu trois fois l'intégrale d'Agatha Christie. Je suis pas sûr que ce soit vrai, hein, mais en tous les cas, lui le dit. Et donc, quand il y a une enquête à mener qui le concerne quand même directement, eh ben, il se trouve tout à fait, ayant eu ses lectures, légitime de mener une enquête parallèle à la gendarmerie.
Et on va découvrir que du coup, Parisot a deux passions dans la vie. C'est effectivement les polars l'hiver et le cyclisme l'été. Voilà, c'est ce qu'on va découvrir en tout cas
voilà,
dans cet épisode pilote de ce qui pourrait être une série en tout cas. Mais moi, j'en doute pas parce que si le succès est au rendez-vous ce soir, comment tu vas faire? Comment tu appréhendes un peu tout ça entre les tournages de Camping Paradis et éventuellement de Monsieur Parisot qui pourrait devenir une série? Ça s'annonce compliqué quand même, le planning.
Mais écoute, voilà, surtout que j'ai aussi envie de faire du théâtre toujours. Donc je laisserai une petite place pour cette activité également. Mais écoute, on s'arrange avec la production, puis on n'en est pas là. Voilà, je crois qu'on s'arrangera aussi bien dans Camping que dans Monsieur Parizeau s'il y a d'autres épisodes.
Alors on disait c'est la consécration pour Monsieur Parizeau, mais c'est la consécration pour Patrick Paroux quand même aussi. C'est beau d'avoir enfin un unitaire centré sur ton personnage, Patrick. C'est on se connaît depuis longtemps et c'est vrai que c'est le campeur préféré des Français, on le dit jusque là, mais ça va devenir l'enquêteur préféré des Français maintenant du coup.
Voilà. Bah c'est une reconnaissance, hein. Voilà, je suis pas insensible à ça. Puis j'aime bien Monsieur Parizeau, c'est un terrain de jeu magnifique parce que c'est un personnage multicarte, sans filtre, qui ose tout, qui doute très peu, qui est pas forcément discret, qui a pas peur des conflits. Donc c'est un personnage qui avance, qui est libre. Ben, ça plaît au scénariste aussi. Et puis moi j'en profite bien entendu en l'interprétant.
T'as conscience de ce qui se passe un peu autour de ton personnage, notamment dans les campings paradis l'été, où il y a carrément des campings. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a plus de 90 campings qui sont estampillés camping paradis. Il y a carrément des campings qui ont installé une caravane Parizeau où les gens viennent se faire prendre en photo devant. C'est vraiment devenu le personnage emblématique, hein, quand même, de la série.
Oui, je crois que vous, bon, moi, j'en suis pas là. Mais effectivement, je sais que c'est devenu le personnage que les gens aiment bien. Parizeau, il a sa caravane, c'est un peu son donjon, tu sais, il a ses chaussettes qui flottent là comme un oriflamme, et puis du haut de sa caravane ou du haut de son donjon, il a tôt fait de repérer quelque chose qui ne va pas, et ce qu'il adore par-dessus tout, je dirais que c'est son dessert, c'est aller se plaindre auprès de Tom Delorme. Alors ça, c'est une forme de jouissance, et j'avoue que je me régale en l'interprétant.
Et l'hiver, alors, du coup, après, c'est le personnage de Clémence qui va prendre, du coup, hein, puisque là, il va aller se plaindre, ouais, à la police, quoi, en fait, hein.
Oui, mais en même temps, Clémence, ça va, elle a aussi de la répartie, son personnage de la répartie, et elle va essayer de canaliser l'énergie de Monsieur Parizeau, parce que elle enquête un petit peu aussi avec lui en dehors de toute mission qui lui a été confiée par son supérieur, donc elle prend des risques. Mais voilà, elle va réussir de temps en temps à le canaliser.
Eh bien, écoute, on parle, hein, de Monsieur Parizeau depuis déjà maintenant plusieurs semaines. Carole Richer est venue nous en parler il y a 2 semaines. C'était Diane Dassini la semaine dernière. Ah non, mais on met la gomme. Je te dis, on te soutient, mais à mort.
Alors, je veux dire quand même, parce que d'une part, il y a un scénario qui a été écrit par Laurent Mondy qui est vraiment très très bien structuré. Je sais que même moi, quand j'ai revu le film sur grand écran, voilà, l'intrigue, elle est maintenue jusqu'au bout et très très bien construite. Il y a une équipe, puisque tu parlais de Carole, de Diane, mais c'est un film choral, c'est-à-dire effectivement il y a Clémence et moi, mais c'est un film choral, c'est-à-dire
le casting est fou. Groupe, hein. Autour de toi, ouais, le casting
c'est vraiment
est fou.
Très 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 très. C'était vraiment voilà, comme une troupe, c'était vraiment très très agréable. Et puis en plus de ça, on avait Nicolas Copin, le réalisateur, mais qui était passionné par cette écriture et qui avait envie de rentrer un peu dans cet univers Agatha Christie, si on veut. Il a réalisé ce film, il y a des plans et des images qui sont magnifiques. Donc on a tourné naturellement en Alsace. Alors effectivement, bah déjà Parizeau, il a pas ses claquettes et ses chaussettes, hein, il a fallu lui trouver autre chose. Mais vraiment, de Laurent Mondy à Nicolas Copin, et avec toute la troupe des comédiennes et comédiens, il y avait tout pour faire un bon film.
Eh bien écoute, c'est ce qu'on va voir en tout cas ce soir à 21h10 sur TF1. Ne le rate pas, Monsieur Parizeau, on l'attend depuis tellement longtemps qu'on va le découvrir et qu'on va s'en délecter ce soir avec grand plaisir. Merci mon cher Patrick. On te retrouve bientôt dans des inédits aussi de Camping Paradis, évidemment, puisque il y a eu des tournages, hein, de nouveaux épisodes depuis cette rentrée aussi. Vraiment beaucoup de choses pour toi. On te souhaite en tout cas vraiment un gros gros succès pour ce soir. On est à tes côtés en tout cas.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alain.
Et à très vite.
À très vite, au revoir.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, un coup de cœur télé consacré à un documentaire, un film qui sera diffusé demain soir sur Planète Plus et qui sera ensuite disponible sur MyCanal. Ça s'appelle Le Mans 1955, une tragédie française. Emmanuel Rayet est avec nous justement pour en parler. Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Alors je sais que c'est un film qui a dû être peut-être compliqué à faire pour vous puisque vous êtes touché de très très près à cette histoire, puisqu'on va faire un retour en arrière. Je dirais pas pour fêter, mais pour commémorer bientôt les 70 ans de cette tragédie qui s'est passée sur les 24 heures du Mans en 1955, où la course a viré au cauchemar et a tué beaucoup de monde suite à un accident. 82 morts et plus de 120 blessés. Un bilan totalement dingue. Aujourd'hui, les responsabilités, 70 ans quasiment après, n'ont toujours pas été, établies. Et vous avez deux personnes de votre famille qui ont péri dans cet accident. Aujourd'hui, c'est une façon de leur rendre hommage aussi.
Absolument. Ce film, c'est avant tout un hommage à ma famille et à toutes celles qui ont été dans la tourmente de cet accident, parce que j'ai estimé que c'était important de ne pas oublier. Voilà, et pour qu'on ne les oublie pas surtout.
Comment ça se fait qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de questions qui sont sans réponse? Est-ce que vous, en enquêtant, en préparant justement ce film, vous avez découvert des choses que vous ne connaissiez même pas, même en étant famille ou proche de personnes disparues lors de ce tragique accident?
Pour être tout à fait franc, j'ai commencé à travailler sur ce sujet il y a à peu près 5 ans. En fait, j'ai découvert vraiment l'histoire sur laquelle je m'étais assez peu penché. J'avais regardé les images qui sont disponibles, notamment sur YouTube ou des trucs comme ça. De me plonger vraiment dedans a changé complètement ma vision du drame. Et notamment, comme vous venez de souligner, la course qui n'est pas arrêtée, etc., etc. Et en fait, la première démarche a été d'aller voir ma famille, de questionner les gens les plus proches. Et souvent, et vous le verrez pendant le film, je me rends compte que je n'ai pas exactement la même version des faits, parce que autour de cette histoire, il y avait une véritable chape de plomb, un non-dit, et de tout ça, il y avait peu de discussions en fait, peu de phrases, peu de choses qui sont vraiment établies et dites. Donc j'avais besoin, moi, de creuser tout ça. Je commence par ma famille, puis je me déplace au Mans, puis je rencontre des spécialistes. Et là, je me rends compte que l'histoire est beaucoup plus importante que celle que j'avais imaginée.
Les images sont fortes, hein. C'est waouh.
Les images sont très fortes. Moi-même, je l'ai encore vu hier, puisque j'étais dans une salle pour l'avant-première que j'ai faite à Paris, dans laquelle, d'ailleurs, dans cette salle, il y avait 15 membres de ma famille, donc de la famille Rayé de mon côté, et je peux vous assurer que c'était un tourbillon d'émotions. J'en parle encore avec la voix qui tremble parce que c'était un moment assez incroyable.
Oui.
Ils sont tous venus me voir évidemment à la fin de la séance pour me remercier.
On imagine qu'on est en 1955. Est-ce que alors il y a eu d'autres accidents dans le sport automobile après, à l'image d'Ayrton Senna, où il y en a quelques-uns malheureusement qui ont disparu dans des conditions tragiques. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait imaginer, ou justement peut-être que cet événement a servi à renforcer la sécurité de ce type d'événement? Faut espérer que ça ait servi.
Bien sûr que ça a servi. C'était probablement une étape nécessaire pour qu'on se rende compte que les circuits étaient à l'époque en décalage avec les performances des voitures. C'est-à-dire que, et notamment je prends l'exemple du Mans, le circuit a été reconstruit en 49 et l'accident a eu lieu en 55. Et entre 49 et 55, les performances des voitures ont été, je vais pas dire décuplées, mais les vitesses ont augmenté de manière considérable. Donc forcément, c'était plus vraiment adapté.
Quand vous avez préparé ce film, vous avez mis 5 ans à travailler dessus, c'était une évidence? En tout cas, parce que si je ne m'abuse, c'est votre premier film documentaire.
J'avais déjà une certaine expérience des tournages, etc. Je travaille dans le milieu de la publicité et des clips. J'ai fait beaucoup de films par le passé, mais c'est effectivement ma première réalisation. Ça s'est confirmé au fur et à mesure, c'est-à-dire que j'ai commencé à écrire dessus et en tirant les fils à droite à gauche, de manière assez naturelle, l'outil qui était à ma disposition, c'était d'en faire un film. Donc j'ai été aidé par une co-auteure extraordinaire qui s'appelle Aurore Robin, avec son aide précieuse.
Ouais.
Ça m'a permis d'écrire un documentaire comme moi je le voyais et de le réaliser par la suite.
Alors ce qui est bien, c'est que le film est en train de faire un peu le tour du monde aussi. Et c'est ça qui est beau, c'est de faire montrer cette histoire, parce que c'est quand même une histoire française, hein, c'est 24 heures du Mans. Et le film a eu un prix à Seattle et a été sélectionné également à Toronto, au Canada. C'est quand même une bonne nouvelle de pouvoir montrer cette histoire à un public beaucoup plus large encore et international même, hein, je dirais.
Écoutez, c'est génial, il n'y a pas d'autre mot. Bien que je n'ai pas fait ça, enfin tout ça, pour avoir des prix, c'était pas du tout le but de la manœuvre, mais bien sûr j'en suis très content et j'espère qu'il y en aura d'autres festivals, mais on doit être à je crois 5 ou 6 aujourd'hui. 5 ou 6 sélections et un prix. Donc oui, c'est une aventure incroyable qui continue, mais avant tout une aventure humaine et émotionnelle très très forte, parce que c'était très intime, très personnel. Moi-même, ça m'a pris du temps de me mettre dans l'état d'esprit d'aller voir les gens de ma famille, de les mettre devant une caméra. C'est un exercice assez compliqué.
Ouais.
Et je me suis senti obligé de me mettre. D'ailleurs, on voit bien la différence entre les experts que j'interviewe et les gens de ma famille, puisque à l'image, en tout cas, je me mets en scène au moment où et je me mets à côté d'eux. En fait, quand j'interviewe les gens de ma famille, je suis assis à côté d'eux parce que j'avais envie qu'il y ait une proximité, quelque chose de très intime en fait qui se crée, et non pas.
Peut-être de réconfortant aussi, de réconfort aussi, de réconfortant.
Absolument, absolument, absolument. C'est le bon mot.
Ouais, c'est une histoire assez dingue. En tout cas, moi, je vous conseille de découvrir, hein, si vous n'avez pas Planète Plus, mais vous avez MyCanal, vous allez pouvoir le découvrir, bien sûr, aussi. Ça s'appelle Le Mans 1955, une tragédie française, un film à découvrir demain soir à 20h55 sur Planète Plus, coécrit avec Aurore Aubin et produit par Isabelle Daniac et Fédération Studio. Merci beaucoup, Emmanuel, d'avoir été avec nous. On vous invite, en tout cas, à découvrir ce très beau film. À bientôt.
Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir.
Le samedi 11 juin 1955, mon grand-père André Rayé est présent sur le circuit des 24 heures du Mans avec 3 de ses fils. Après 2h30 de course, l'épreuve bat son plein mais devient subitement le théâtre de l'accident le plus grave de l'histoire de la compétition automobile de tous les temps.
Ici le circuit automobile du Mans. Je vous parle alors qu'un accident terrible vient de se produire sur la ligne droite. Les voitures viennent entrer dans la foule.
Le bilan officiel, 82 morts et 120 blessés. Mon grand-père a quitté les tribunes quelques minutes avant l'accident. Il a perdu 2 de ses fils. Ils avaient 16 et 21 ans. Ils sont morts sur le coup. Cet accident dans ma famille, on n'en parlait pas. Jamais. Et pourtant, cette histoire n'a cessé de me hanter. Je m'appelle Emmanuel Rayé et l'histoire de ma famille est étroitement liée avec celle des 24 heures du Mans.
Création documentaire. Le Mans 1955, une tragédie française, mardi 8 octobre à 20h55 sur Planète Plus.
Allez, notre coup de cœur télé cette semaine est consacré à Demain nous appartient. Quel bonheur d'avoir ce couple emblématique maintenant, j'oserais presque dire, de la série. Maïel et Lajaoui est notre invité et accompagné de sa mélodie chérie, Nelly Lawson, qui est avec nous aussi. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Bon, il était temps que Georges quand même retrouve une promise.
Ouais, il était temps, il est très heureux et il a une belle promise. Il l'a bien trouvé sous des gravats d'un lycée, comme quoi, hein.
Qui s'est effondré.
Belle trouvaille, hein, sous tous ces gravats.
C'est un trésor.
C'est un très beau trésor, bravo.
Et il l'a sauvé quand même, il lui a sauvé la vie et c'est vrai que ça a créé un lien indéfectible entre ces deux personnages. Au début, qu'ils se sont cherchés, on s'est dit, mais quand c'est qu'ils vont se trouver ces deux-là? Ça y est, il était temps.
Bah ouais, il était temps parce que Georges, il en a fait baver, hein. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas qu'il voulait pas, c'est qu'il savait pas comment faire. Et elle était dans ce truc de il m'a sauvé la vie et en plus je suis amoureuse de lui. Donc voilà, c'était très intense. Mais finalement, ça s'est fait quand même.
Et alors Maïel, trouver une copine qui a grâce aux yeux de ta mère, quand même.
C'est rare et comme quoi là ça se passe bien. Donc on va essayer que les auteurs nous laissent un peu tranquille dans notre histoire d'amour. Mais tout peut arriver sur Demain nous appartient, donc rien n'est acquis. Et je suis content que Catherine Benguigui, ma maman que j'aime, aime ma chérie.
Notre Mona, je suis fan, mais fan tellement de Catherine et de son personnage de Mona, qu'on aime tellement tous.
Ouais, on aime tous et moi je l'aime plus, donc faites attention les gars, personne ne touche à ma mère. Hein.
Ah quand même, hein. Alors il faut dire que... Il y a quelque chose de très dramatique et à la fois très beau qui est arrivé dans la vie de Georges. C'est cet enfant, ce petit Lucien.
Magnifique. Une expérience incroyable à jouer à l'écran. Parce que je suis papa, donc je sais le bonheur et cette beauté de pouvoir avoir des responsabilités autres que de s'occuper de son petit nombril. Et donc, c'est sympa d'avoir, en plus la chance d'avoir une chérie qui accepte et qui m'aide à pouvoir gérer cette petite beauté d'enfant de Lucien.
C'est vrai que Mélodie a fait preuve d'une bienveillance à toute épreuve dans l'arrivée de ce petit. Elle n'a pas brusqué Georges, elle a été vraiment à ses côtés tout en étant un peu sur la réserve aussi pour le laisser appréhender un peu tout ça. C'était très beau à voir en tout cas ces scènes-là.
Ouais, oui, c'est vrai, tout à fait. C'était très chouette à jouer aussi parce qu'il y avait voilà cette arrivée en douceur. Oui, elle a été très compréhensive et puis on comprend aussi par la suite qu'en fait ce qu'elle vit avec Lucien dans le développement de leur relation, c'est aussi ce qu'elle n'a pas pu vivre avec son propre fils.
Avec Bastien, qu'on a découvert, et ben oui, ça y est, le poteau rose.
Ça y est, bah oui, ça a été un événement incroyable dans la vie de Mélodie et dans la vie de Georges aussi, dans leur vie à tous les deux. Donc voilà.
La relation s'apaise, s'adoucit entre Mélodie et Bastien quand même. On a l'impression petit à petit ces deux-là vont finir par s'apprivoiser. T'as vu, je suis, hein, je rate rien.
Je vois ça, bravo.
C'est tout ce qu'on fait.
Non, c'est super. Bah oui, puis c'est vrai que Mélodie, elle en a très envie, donc elle fait beaucoup de propositions. Voilà, bon, parfois, pour Bastien, c'est un peu difficile parce qu'il est aussi traversé par beaucoup de colère, de rejet. Il a vécu des trucs extrêmement traumatiques récemment. Donc, voilà. Elle veut être là pour lui, pour aussi l'aider à se reconstruire maintenant qu'il a perdu son père, etc. Mais je crois que c'est vrai, c'est plutôt bien parti. Elle va essayer de participer à son association, il va faire avec son association Brassos un événement pour Noël dans lequel elle va chanter, elle va l'aider. Donc voilà, c'est en bonne voie, même si ça prend son temps, mais c'est normal, c'est aussi comme ça, sainement, qu'on construit de belles relations.
C'est un peu un renouveau du coup pour le personnage de Georges, quand même, tout ça entre la famille, le commissariat, sa vie de couple à gérer, ça fait beaucoup pour lui d'un coup.
Ouais, c'est énorme, mais en même temps, c'est ce qui est excitant de ne pas être dans une espèce de normalité de tournage, et c'est ce que propose et offre la quotidienne. C'est qu'on est tout le temps à pouvoir gérer plein de choses et avoir plein de choses qui nous arrivent, et donc ça nous met dans une perpétuelle obligation de jouer, de faire attention à ce qui se passe, et tout peut arriver en fait. C'est ça qui est génial.
Et à la fois dans la saison dernière, du coup, pendant ces un an, on a pu découvrir un Georges beaucoup plus à fleur de peau, beaucoup plus sensible aussi qu'avant.
Ouais, complètement, et c'est vrai que c'est beau à pouvoir jouer, dans le sens où on a plein de facettes qu'on a en tant qu'acteur, et c'est vrai que c'est en fonction de ce qu'on nous propose à jouer qui fait que on va chercher, on va puiser dans telle ou telle facette, tel ou tel tiroir, et c'est un bonheur de pouvoir jouer plein de choses différentes, parce que la quotidienne, sur la longueur, ça te le permet, ce qui est pas possible sur un film au cinéma ou sur un unitaire.
Comment t'as vécu le fait d'être très rapidement adopté par les fans et de devenir un des personnages préférés? Aujourd'hui, Georges n'était pas forcément prévu pour rester très longtemps au tout début et finalement a tellement été adopté vite qu'il a fallu lui écrire quand même des intrigues et qu'aujourd'hui, les fans, ils l'adorent, Georges.
C'est adorable, mais ça me touche aussi. C'est pour ça que j'essaie de leur rendre. On leur rend du mieux qu'on peut par du temps, des photos, des autographes, des petits moments où on peut parler ensemble. Et c'est vrai que j'ai la chance que le personnage ait plu, mais ça part aussi des auteurs, de ce que j'ai à jouer et ce qu'on m'écrit. Donc j'en suis très 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 reconnaissant, et je leur dis encore une fois merci à tous ces gens qui nous suivent, qui me suivent et qui suivent surtout la série.
Bon, la seule chose qu'on peut redouter de Mélodie un peu, c'est ses cours de sport. J'avoue que des fois ça y va quand même.
Ouais, ça y va, puis surtout qu'elle fait des coachings, elle est prof au lycée, elle donne des cours d'aquagym, bientôt c'est vrai qu'on va se dire qu'elle va faire de l'équitation, de l'escrime et puis du judo quoi. Donc c'est vrai qu'elle est très très complète. Et puis oui, c'est sa vie hein, le sport, donc voilà, puis elle fait du sport beaucoup avec sa belle-mère aussi qu'elle adore, et c'est ça aussi qui a fait qu'elles ont créé une relation ensemble là-dessus.
J'adore les petits ensembles moulants de Mona. Quand c'est comme ça, c'est tellement drôle.
Ces tenues de sport sont vraiment trop bien choisies. C'est vraiment genre années 80, flash à fond. C'est excellent. Enfin, nous, on adore.
Vous arrivez à garder votre calme tous les deux, votre sérieux, devant les répliques que Catherine peut envoyer comme ça, qui elle, en plus, est à la recherche du prince charmant qui lui envoie des messages subliminales au restaurant, qui prend ça, mais elle prend tout au premier degré, Mona. Et c'est vrai que vous, en tant que comédien, quand elle vous donne la réplique, mais comment faire pour garder son sérieux? Parce que nous, quand on la regarde, on n'y arrive pas, hein, je vous le dis. Hein.
Non, c'est un bonheur, mais c'est ce qui, encore une fois, elle est imprévisible, Catherine, comme quasiment tout le monde sur DNA. On a nos petits secrets, et c'est vrai qu'elle, elle est particulièrement drôle, et sans le vouloir. Donc c'est encore plus piégeux pour nous, parce que parfois, elle va nous dire des choses très premier degré, très sincères, et nous, ça nous fait éclater de rire, quoi.
Ouais, pareil.
Cours de sport avec Mona, c'est plus drôle?
Ouais, c'est excellent. Bah, c'est génial de tourner avec Catherine parce que c'est quelqu'un qui est d'une spontanéité et d'un humour, d'une joie. Elle a une gouaille. Moi, j'aime beaucoup travailler avec elle. Et puis, faire des cours de sport avec elle, c'est excellent parce que, en fait, elle est pas très sportive, honnêtement. Donc, du coup, c'est assez drôle parce qu'elle dit, on va faire quoi là? On va faire ça? Ah, bon, d'accord. Donc, c'est toujours, on rigole. Puis finalement, elle fait un truc encore plus compliqué. Non, c'est très chouette. Très sympa.
On va terminer par vos projets, parce que Maïel, tu montes sur scène, il y a du one man show aussi, et tu vas te produire un petit peu partout en France d'ailleurs, en tournée. On aimerait bien que tu passes dans la région quand même, hein.
Ben je vais passer, je t'enverrai évidemment toutes les dates là qui sont en train de tomber définitives, et donc j'ai le spectacle évidemment qu'il faut absolument venir voir sur scène, parce que on est différent hein, quand on est derrière un micro pour chanter ou pour jouer la comédie qu'à la télévision. Et puis je tourne en ce moment le long métrage de Sophie Beaulieu, une comédie avec Cécile de France, Vincent McCain et Zoé Marshall.
Génial.
Donc ça c'est la petite surprise. Donc je suis en plein tournage là-dedans, c'est pour ça la barbe. Non, je suis très heureux et puis j'espère tourner plein de choses rigolotes avec mes partenaires d'amour.
Nelly, je sais qu'il y a des choses aussi qui se profilent à l'horizon.
Oui, tout à fait. Là, j'ai tourné dans une série qui s'appelle A Priori, qui est une nouvelle série de France Télé. La semaine prochaine, je suis en tournage aussi pour un unitaire de TF1 réalisé par Maurice Barthélémy. Et puis, il y a aussi de la musique, parce que moi, je suis chanteuse. Tout le monde ne le sait pas, mais je viens de la musique à la base. Donc voilà, il y a un single pour la fin de l'année. Un film d'auteur aussi.
Tu nous enverras, on reste connectés, mais on veut être les premiers à te le diffuser.
Ah, génial. Et avec grand plaisir, dès qu'il sera sorti, je penserai à vous.
Eh bien écoute, on sera là en tout cas pour t'accompagner. Merci infiniment de tous les bons moments que vous nous faites passer en tout cas. Tous les deux, c'était un grand bonheur pour moi de vous avoir en couple, c'est le cas de le dire. Nelly Lawson et puis évidemment Maïel El Hajaoui, je vous embrasse très fort tous les deux. On va continuer à suivre vos aventures du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. À très vite.
À très vite, gros bisous.
À très vite, merci.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé, revient dans un instant. À tout de suite. Tous les bonus audio et vidéo de votre émission sur onécoutelatélé.com, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Chut, on écoute la télé.
Je voulais te le dire, j'ai fait le tour de la terre et j'ai rien trouvé de mieux. Et ça va te faire rire, parce que tu le savais déjà, mais tu me voyais heureux. J'ai pas voulu m'enfuir, j'avais besoin de temps et je suis pas doué pour les adieux. Maintenant, je peux te dire ce que je veux. J'ai parcouru le monde, j'ai traversé les années sans jamais t'oublier. Et j'ai vécu chaque seconde à penser en secret qu'un jour on se retrouverait. J'ai fait la fête partout sur la planète, je voulais pas l'admettre, mais t'étais dans ma tête. J'ai parcouru le monde, je rentre à la maison ce soir. Dis-moi que c'est pas trop tard. Je vois l'avenir avec toi, un peu de voyage et des souvenirs heureux. Je veux plus jamais me mentir. Je sais que c'est toi si tu m'aimes encore un peu. On pourrait s'enfuir, mais cette fois j'aimerais qu'on le fasse tous les deux. J'espère que tu vas me dire. J'ai parcouru le monde, j'ai traversé les années sans jamais t'oublier. Et j'ai vécu chaque seconde à penser en secret qu'un jour on se retrouverait. J'ai fait la fête partout sur la planète, je voulais pas l'admettre, mais t'étais dans ma tête. J'ai parcouru le monde, je rentre à la maison ce soir. Dis-moi que c'est pas trop tard. Jamais, jamais, jamais j'avais autant cherché ce que j'ai déjà. J'ai regardé dans tes yeux et je me suis vu pour la première fois. J'ai parcouru le monde, j'ai vécu chaque seconde. J'ai parcouru le monde, j'ai traversé les âges sans jamais t'oublier. Et j'ai vécu chaque seconde à penser en secret. On se retrouverait, j'ai fait la fête partout sur la planète. Je voulais pas l'admettre, mais t'étais dans ma tête. J'ai parcouru le monde, je rentre à la maison seule.
soir. Dis-moi que c'est pas trop tard.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chute on écoute la télé. Chute on écoute la télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Coup de cœur télé consacré à Plus belle la vie, encore plus belle, votre série que vous suivez du lundi au vendredi. Vous êtes plus de 2 millions tous les jours à 14h à suivre les aventures de Samuel qui est interprété par Iñaki Lartigue. Pas facile à dire. Bonjour Iñaki.
Bonjour, enchanté, ravi.
Merci d'être là.
Mais c'est un plaisir.
Petit nouveau dans Plus belle la vie. T'arrives dans une famille établie depuis maintenant 20 ans. Et franchement, on a vraiment l'impression que Samuel est comme un poisson dans l'eau.
C'est vrai, bah tant mieux, oui, j'ai été très bien accueilli, mon personnage d'une part, et puis moi aussi en tant qu'acteur, très bien accueilli par la production, et puis toutes les équipes techniques avec qui on tourne, et les comédiens évidemment, qui, c'est un régal de les retrouver sur le plateau.
Quand tu es arrivé sur la série, qui est repartie, tu savais évidemment que la série avait déjà 18 ans d'existence, c'était un redémarrage, un renouveau, est-ce que ça met une petite pression ou pas ?
Pression, je sais pas, en tout cas une exigence de s'inscrire à la fois dans ce qui avait été fait, et puis il y avait aussi, je pense, cette exigence de la production et de la chaîne d'amener du nouveau en termes d'intrigue, en termes d'image aussi, de réalisation. Donc la pression, je sais pas, mais une exigence vis-à-vis de moi-même aussi, de me faire plaisir, et puis de que mon personnage soit intégré comme tu l'as dit tout à l'heure, et donc voilà, donc c'était ouais une belle exigence, mais moi j'aime avoir de l'exigence, ça permet de se dépasser, et donc c'est un plaisir.
C'est chouette. Comment tu le vois toi, Samuel vu par Iñaki?
Oula.
Alors... vaste sujet, parce que moi pour te dire, je le vois assez rigoureux, assez cartésien, droit dans ses bottes, et voire même limite un peu obsessionnel sur certains points.
Ah ouais, d'accord.
Sur le ménage, par exemple. Tu vois ce que je veux dire ?
Oui, c'était... Oui, alors il aime que les choses soient bien faites. Il a des petites manies, mais non, il n'est pas... À la base, en tout cas, c'est un flic qui veut bien faire son travail avant tout. Donc effectivement, il a ce côté carré cartésien dans le sens où il a une quête de justice qui est forte. Et c'est pour ça que il a à cœur d'être le plus efficace possible et de faire son travail au mieux. Donc c'est comme ça que je le vois. Et puis aussi, il a à côté de ça un désir d'aventure et un côté sportif et un petit peu de charme et de fantaisie. Et puis bientôt, on va aussi apprendre d'autres choses, d'autres facettes de Samuel sur son passé. Donc
c'est ça. Ça va être intéressant, évidemment, parce que c'est un personnage qu'on connaît du coup. Professionnellement surtout, un peu dans sa vie privée avec évidemment Jennifer, mais il y a une grosse intrigue évidemment autour de Jennifer aussi quand elle a été séquestrée, mais c'est vrai qu'on en sait peu finalement sur lui.
Oui, on en sait peu, mais on va bientôt en savoir plus, donc voilà, moi je peux pas vous en dire plus parce que je le sais pas moi-même.
Il va se passer de belles choses. Tu sais que Plus belle la vie, c'est une série sur laquelle tous les personnages historiques ont toujours été très renommés là-dessus pour bien accueillir les nouveaux, les guests, les nouvelles familles, etc. Je pense que le passage à TF1 n'a pas failli à la règle. Comment vous avez été accueilli par les anciens, justement, de la série ?
Eh bien, moi, j'étais super bien accueilli. Ouais. Dès le premier jour de tournage, c'était une scène où on était assez nombreux et beaucoup de comédiens. Donc, ça permettait de rencontrer directement tout le monde. C'était un plaisir. Et puis, vu que mon personnage est un flic, il tourne beaucoup avec les autres flics du commissariat. Et je m'entends super bien avec tous les membres du commissariat, Stéphane Hénon, Jérôme Bertin, Lola Marois, Moon.
Un peu triste de voir Moon partir, justement.
Ouais, c'est vrai que c'était une commissaire que Samuel aimait beaucoup. On sentait qu'il y avait peut-être un lien, il y avait une petite infiltration qu'ils avaient fait tous les deux.
Il y avait une espèce d'admiration, ouais.
Ouais, d'admiration. Je pense que les deux sont empreints de cette quête de justice, et donc ils se retrouvaient là-dessus sur le travail. Ils avaient la même vision, je pense. De leur métier, donc c'était appréciable de les voir évoluer tous les deux.
On a hâte en tout cas de découvrir un peu les pans, on va dire, un peu privés de la vie de Samuel dans les mois qui viennent, oui, si j'ai bien compris, oui, et de voir ce que t'ont concocté les auteurs.
Ouais. Oui, moi aussi j'ai très hâte de découvrir ça. C'est ça aussi qui est assez drôle dans une série quotidienne, c'est qu'on découvre au fur et à mesure, les spectateurs le découvrent, mais nous aussi en tant qu'acteurs on le découvre, donc... je pense que je vais le découvrir dans les prochaines semaines, ce qui va se passer.
Ce qui a dû te surprendre quand même, c'est la popularité immédiate que t'as amené la série. La série quotidienne, c'est quelque chose qui est quand même assez bluffant. C'est-à-dire, à partir du moment où tu passes, que ça passe, c'est un plus belle la vie, très attendu, évidemment. Le regard des gens change dans la rue, non?
Oui, exactement, oui. Mais c'est un bonheur et c'est vraiment un plaisir de rencontrer tous les spectateurs qui peuvent nous interpeller. Et c'est des ondes positives à chaque fois. Donc, c'est vraiment un plaisir, ouais.
Mais écoute, en tout cas, on te souhaite plein de belles choses. On espère que tu vas rester longtemps avec nous, dans Plus Belle, tu t'y vois longtemps?
Bah, j'espère aussi, tant qu'il y a des choses à défendre et que le personnage de Samuel plaît et évolue de la meilleure des manières, il n'y a aucune raison que je parte. Donc c'est un grand plaisir, ouais, que je reste le plus longtemps possible.
Ouais. Merci Iñaki d'avoir été avec nous. On te retrouve évidemment du lundi au vendredi à 14h sur TF1. Et puis bientôt, Ça c'est Paris?
Exactement, dans la série Ça c'est Paris de Marc Fitoussi, qui devrait être diffusée en fin d'année. Donc,
nouvelle série événement produite par Dominique Besnéard en plus et Antoine Charpentier.
Exactement, par mon voisin production et Fédération Studio, c'est les mêmes producteurs que 10%. Ça promet une série spectaculaire, drôle, émouvante. Ouais, très très belle série à venir.
Comme quoi, même une quotidienne laisse un peu de temps quand même.
Exactement, on arrive à toujours bien s'entendre entre productions pour faire différents projets. Ouais.
Merci Iñaki.
Avec plaisir.
Merci. À bientôt.
À bientôt.
Chut, on écoute la télé, spécial festival.
Allez, notre invité pour terminer cette émission, c'est Justine Thibaudat qui nous rejoint, qui est en charge de la programmation du festival Creativity de 7 qui démarre mercredi. Justine est avec nous pour en parler, bonjour.
Bonjour Alain.
Merci d'être avec nous. Écoute, on se connaît depuis plus de 10 ans et je suis hyper heureux de t'accompagner en tout cas sur cette première édition. Un premier festival, une création de festival, c'est toujours un événement quand même. Et toi, en tant que comédienne, t'en sais quelque chose parce que tu passes ce coup-ci de l'autre côté?
Oui, exactement. En fait, voilà, comme je le disais, j'ai une autre casquette, c'est que je suis en lien avec les producteurs, les réalisateurs, les chaînes. Et ensemble, voilà, on parle de séries potentielles ou pas sur Creativity. Et puis avec les équipes, on visionne et puis après on valide. Ce qui me donne cette casquette de je ne joue pas dans les séries, mais je les visionne et je donne mon avis, j'ai un regard artistique, j'ai une autre sensibilité et c'est vrai que j'apporte peut-être cette sensibilité de cette jeune actrice que je suis et qui est aussi spectatrice. Donc c'était un grand plaisir de faire partie de cette programmation.
Alors, il est vrai qu'un premier festival, on le dit, c'est toujours un événement, mais il y a déjà une programmation de fou. On va vous détailler ça, évidemment, dans un instant. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie de relever ce défi, déjà?
Alors, en fait, bon, j'adore la série et je suis aussi une comédienne qui tourne pas mal dans les séries. Donc, quand on me l'a proposé, ça a été un challenge parce que je me suis dit, waouh, est-ce que je suis légitime? Et ben, évidemment, je me suis dit, oui, bien sûr que je suis légitime parce que je suis une comédienne qui joue dans des séries. J'ai un petit peu d'expérience maintenant et j'ai un regard aussi parce que je regarde beaucoup, beaucoup, beaucoup de séries. Et donc, j'avais un avis aussi à donner. Et oui, par contre, oui, c'est un challenge parce que c'est une responsabilité. C'est faire un choix. Et puis, parfois, on ne peut pas tout choisir et c'est là où on prend des décisions, mais c'est ce qui est passionnant. Il y a des débats, on donne notre avis et puis après, ensemble, on décide d'une programmation qui, je pense, va être très très belle.
Et c'est ça que t'ont offert un peu justement Stéphane Capu et Emmanuel Aymar dans la création de ce nouveau festival. Festival des créations audiovisuelles de cette créativité, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on va y voir? Des séries, des unitaires, mais pas que?
Alors, oui. Donc, on a la journée du mercredi 9 octobre. On va avoir en avant-première Panda 2. Voilà, en avant-première parce qu'il y a eu la saison 1. Et là, on a vraiment en inédit la saison 2. Donc
surtout que le tournage est fini depuis pas très longtemps. Donc, c'est un exploit.
Là, c'est vraiment un inédit. On est trop contents avec Julien Doré. Donc, est-ce qu'il sera là? Ce sera une surprise. Je ne vous en dis pas plus. On aura aussi une nouvelle série qui va s'appeler Factice, qui sortira sur 13e rue avec Caroline Anglade, qui est juste une série mais démente. J'ai hâte que vous la découvriez.
Avec une actrice démente aussi.
Voilà. On a évidemment Olympe, une femme dans la Révolution, avec Julie Gayet qui sera donc présente. On est ravis de la voir avec nous. On aura Une amitié dangereuse. Alors évidemment, il y a quelques séries qui sont présentes qui ont été déjà sélectionnées dans un autre festival.
Oui, c'était le cas pour Une amitié dangereuse sur Sérimania ou sur Olympe, hein, qui a déjà fait quelques festivals, mais Julie a vraiment envie de le faire passer justement et de le montrer au plus grand nombre sur grand écran. Donc ça tombe bien.
Oui, Julie, c'était vraiment voilà son envie et elle nous a dit oui tout de suite, hein, pour Creativity. Très emballée, vraiment envie d'être présente. C'est la première à nous avoir dit oui. mais je crois qu'elle a envie que ça, voilà, de vraiment montrer ce magnifique projet, et on a hâte de le montrer. On va avoir une nouvelle série, la seconde saison de En Terrasse, qui est sur Prime. On va avoir un inédit aussi, Un Soupçon, qui va être diffusé bientôt sur France Télévisions. On va avoir Dans l'ombre, on va avoir La maman du bourreau aussi, qui a été diffusée, Sentinelle Ukraine aussi, Extra, Rivage, Les espions de la terreur, Seul. On va avoir L2, et aussi en avant-première on va avoir Syntex avec Louis Garrel, qui normalement devrait être présent. Donc on a plein de surprises encore. On a un super jury.
Oui, il y a une compétition aussi, mine de rien, parce que c'est aussi ça, Creativity, ça va être une compétition.
Oui, alors c'est une compétition. Donc il y aura un magnifique trophée qui a été créé aussi par A7, voilà, par un créateur. Donc c'est une vraie compétition. Il va y avoir donc 5 prix. Il va y avoir le prix de la meilleure série, il va y avoir le prix de la meilleure interprétation, meilleure réalisation, meilleure musique et meilleur film d'animation, parce qu'on a aussi des films d'animation en compétition.
Ça, c'est chouette aussi. Oui, et en plus, donc, il y a une compétition, effectivement, dans ce festival, avec un jury prestigieux, avec notamment Aïssa Maïga. C'est déjà une belle perf, hein, d'avoir une actrice de ce calibre-là, qui est aussi bien cinéma que télé.
Oui, exactement. Elle est aussi réalisatrice. Et ce qui était important pour nous de la voir, d'avoir son regard de femme comédienne et réalisatrice, elle nous a dit oui tout de suite. On a aussi un autre, enfin, le jury qui l'accompagne est magnifique.
Oui, il y a un peu tous les corps de métier aussi, hein, qui vont se retrouver, hein, bien sûr, dans ce jury.
Donc, il y aura comédien, compositrice, qui l'accompagneront avec réalisateur. Ils seront 5 membres du jury.
On va découvrir ça avec grande impatience, évidemment. Alors, c'est un festival qui est fait, évidemment, pour perdurer. En tout cas, c'est l'envie du festival de s'inscrire déjà dans cette première édition. Mais Justine, tu es aussi comédienne.
Oui, avant tout, d'ailleurs. Oui, je suis comédienne. Cette expérience de programmation est en plus de mon métier. Oui, oui, je suis comédienne depuis 10 ans.
Et on t'a retrouvé dans Simon Coleman, d'ailleurs, en septembre. C'est il y a quelques semaines, tout juste. Vous pouvez encore voir les épisodes sur France.tv.
Oui, tout à fait. Et puis, je serai en tournée là. Bah, écoutez, j'ai ma première le 11 octobre.
Oui, à la fin de la semaine, là. Ça va aller?
Oui,
je te sens déjà tendue.
Non, en vrai, j'ai hâte parce que ça fait 3 ans que je suis pas retournée sur scène, que j'ai en partenaire des super acteurs, notamment Xavier Deluc et Valérie Caprisky, que vous connaissez bien. Et on a fait des répétitions où on s'est littéralement tapé des grands fous rires, qu'il y a une super alchimie, que ça va être vraiment dément. On a des dates de tournée un peu partout en France. Allez voir sur les réseaux sociaux, c'est sur ma page Instagram, j'ai diffusé les dates. Et c'est les Lucioles Productions qui produisent ça. Ils font d'ailleurs, eux, plein de pièces de théâtre en tournée avec plein d'acteurs que vous adorez.
Et ça part en tournée partout en France.
Oui, ça part en tournée partout en France. On joue dans des casinos, on joue dans des théâtres de plusieurs villes en France. Et ça va durer pendant plusieurs mois. Je crois que la dernière date de tournée est en juin, si je ne me trompe pas.
Bon, il y a un hiver bien occupé.
Oui, bien occupé. À côté de ça, je suis sur un autre projet de théâtre que je vous parlerai très bientôt parce que c'est encore en train de se faire.
Oui, et puis comme on va se revoir très très vite.
Voilà, j'ai aussi le projet d'une série, une série courte, mais ça c'est pareil, je vous en parlerai une fois que ce sera avancé. Et moi, à titre personnel, je suis en écriture, j'essaye quand j'ai le temps, parce que là c'est difficile de trouver le temps, mais en écriture de mon long métrage qui est une histoire familiale que j'ai envie, enfin, je me sens prête à écrire.
Et réaliser ?
Non,
pas tout de suite. Non. Prochaine étape.
Je crois pas réaliser, ou pas tout de suite en tout cas, même si j'ai déjà réalisé 3 fois. Donc c'est passionnant, non, mais c'est vraiment une écriture, c'est une histoire très très forte, très intense. Mais il faut trouver le temps d'écrire, c'est long.
On te retrouve en tout cas du côté de 7 à partir de mercredi. Tu y seras, toi, dès le début du festival, évidemment. Et puis, à la fin, tu iras sur les planches, hein, c'est le cas de le dire. Mais on retrouvera évidemment toute l'équipe. Une belle programmation qu'on vient de vous détailler. Un événement demain nous appartient, évidemment, aussi. Ne pas oublier, puisque 7, faire un festival à 7 sans Demain nous appartient.
Oui, non, mais il est évident que l'équipe de Demain nous appartient seront présents. Je peux vous dire que mon ami Samy Garbi, que j'aime beaucoup, sera présent et d'autres qui vont être là, qui vont être annoncés. De toute façon, c'est leur ville, hein, c'est la ville où ils tournent, donc c'est la famille, j'ai envie de dire presque. Donc on ne pouvait pas se passer d'eux.
Exactement. Et tout le programme, on peut retrouver toutes les infos. Il y a un site internet, une page Facebook, Instagram.
Oui, exactement. Sur les réseaux sociaux, Instagram, sur la page de internet, hein, le site internet de Creativity. Moi, sur Justine Thibaudat, ben, c'est pareil, je parle régulièrement du festival. Et puis, il va y avoir aussi de la presse. Vous qui viendrez couvrir le festival, en tout cas, ce sera des surprises aussi. On laisse aussi des surprises au public.
Merci, Justine, d'avoir été avec nous. On se retrouve très très vite, en tout cas. Merci à toi et puis bon courage, hein, en tout cas. À mercredi.
Merci Alain, à mercredi et bisous à tous.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Allez, lundi prochain, on parlera de la fiction. Une amie dévouée qui débarque sur Max avec une partie de l'équipe de la série. On parlera également de Un soupçon et puis il y aura plein d'autres surprises qui vous attendent. Alors, restez connectés puisque tout au long de la semaine, on vous fera vivre également Creativity du côté de cette dès mercredi.
Le rendez-vous des stars. C'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio.
Allez, je vous invite à rester connecté avec nous. N'oubliez pas que vous avez également le podcast de la quotidienne tous les jours à midi sur notre site onécoutelatélé.com et que chaque lundi à 20h, on vous donne rendez-vous évidemment pour le podcast de l'hebdo de Chute, on écoute la télé. Vous pouvez rester également connecté avec nous tout au long de la semaine sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé et télécharger également nos applications pour iPhone et Android. Chute, on écoute la télé. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de Chute, on écoute la télé, l'hebdo. À lundi prochain, 20h.
Chute, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier en Nouvelle-Aquitaine. Des glaces sans ajout d'arômes, sans colorants, sans conservateurs. Découvrez les sorbets, crèmes glacées, cônes artisanaux et la nouvelle gamme de pots gourmands, Jade et Ali, disponible dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Et retrouvez les boutiques, les ateliers de Langélis à Pontaillac, La Rochelle, La Cotinière et Bordeaux. Chut, on écoute la télé avec vos boutiques de prêt-à-porter Speak en Nouvelle-Aquitaine. Speak, c'est la mode homme, femme, des pépites chaque semaine pour tous les budgets. Mais Speak, c'est aussi un corner seconde vie pour les vêtements que vous ne portez plus. Alors n'hésitez pas. Plus de 15 boutiques Speak vous attendent en Nouvelle-Aquitaine. Retrouvez toutes les adresses et la boutique en ligne sur speak.fr.